ce soir, Mayday Chill. Rassemblement. Et tout de suite, les Canu Info du mercredi soir.
Demandez le journal. Voici le journal. Demandez-le le journal du jour, le journal. Le voici, c'est celui d'aujourd'hui même, le journal, allez-y, le journal.
Au nom de la mauvaise foi, de la fausse rumeur et de l'annonce publicitaire, je te baptise journaliste.
Radio Canu, 102.2. Canu Info. Bonjour.
Bonsoir.
Bonsoir.
Et bonsoir.
Et bonsoir.
Et c'est l'heure du
Canu Info
du mercredi. Les Canu Info.
Canu Info
du mercredi.
Bonsoir, 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 et ça y est, nos micros. Il est 19h04. Et c'est l'heure du Canu Info, pendant que notre ami se bat avec le sien. Ce soir, nous allons avoir une petite thématique, les retraites.
Ouais. Qui sera assez logiquement prolongé par une petite thématique, les flics et les retraites. Enfin, les flics, quoi.
Voilà, on peut dire hein, par exemple que dans cette rubrique avec les retraites, on va parler de la rencontre de Borne et des syndicats. On va vous lire un petit tract qu'on a trouvé qui traînait sur un piquet. On aura le communiqué, le deuxième communiqué des parents de Serge.
Je tiens, pourquoi il n'est pas dans la rubrique suivante, Matin Brun?
Parce qu'il annonce la rubrique Matin Brun. C'est comme ça que ça a été construit.
Ah mais attendez, mon micro marche pas du tout.
Ton micro marche pas, non. Ensuite, on va parler...
Matin Brun, dans laquelle on parlera des flics qui, du coup, ne seront jamais obligés de porter leur numéro de Rio, c'est la décision du Conseil d'État ce matin, de Darmanin qui menace la Ligue des Droits de l'Homme, et de cette fameuse pétition pour la dissolution de la Brave M, dont vous avez déjà parlé la semaine dernière, et dont vous avez certainement entendu parler par ailleurs, qui, ma foi, ne deviendra rien du tout.
Bah, il dit pas les...
On spoil que c'est pas le jour des bonnes nouvelles.
C'est-à-dire que quand elle a été lancée, on n'y pensait pas que ça allait marcher. Ensuite, on aura...
Ensuite, on passera enfin vraiment à autre chose, quoi.
Ensuite, on parlera du camion info, et on va parler encore de la pression de l'eau, mais cette fois-ci en Grèce.
Privatisation de l'eau.
Ouais, mais de la pression autour de l'eau.
Ah.
Ensuite, on ira au Burkina.
Ouais, et puis à Mayotte.
Voilà. Et on va commencer par deux petites brèves. ouais, par okay. quatre petites brèves. Et c'est toi qui commences.
Allez, c'est moi qui commence. Allez. Et malgré tout, on va quand même déjà d'ores et déjà parler d'Emmanuel Macron, puisqu'il entame aujourd'hui, loin de tout ce brouhaha hexagonal, il entame aujourd'hui une visite en Chine. En compagnie de Ursula von der Leyen, le but étant à peu près de convaincre Xi Jinping d'une part de ne pas fournir des armes à Poutine, d'autre part de laisser tranquille Hong Kong et Taïwan. Alors vu ce qu'on sait de l'aptitude légendaire de Macron pour convaincre, c'est-à-dire par exemple en février de l'année dernière, on se rappelle qu'il avait rencontré ou téléphoné à Poutine je ne sais combien de fois à chaque fois pour lui dire qu'il fallait surtout pas attaquer l'Ukraine, puis qu'il devait tout de suite arrêter, tout de suite se retirer d'Ukraine, bon on connaît à peu près le résultat. C'était un exemple, mais l'autre exemple, c'est tout bêtement, il y a 15 jours, il est intervenu à la télé française pour expliquer une fois de plus que sa réforme des retraites était super pour tout le monde. Le lendemain, alors moi, par exemple, j'ai rencontré quelqu'un à la manif qui m'a dit « Ah ouais, moi je l'ai regardé le discours de Macron, je peux te le résumer, c'est « Vous êtes tous des cons et je vous emmerde ». Résultat, la mobilisation qui semblait à ce moment-là potentiellement en baisse a connu un énorme rebond. Tout ça pour dire que si j'habitais à Hong Kong ou à Taïwan, je prierais n'importe quel dieu pour supplier que l'avion présidentiel s'écrase avant d'arriver en Chine. Et si j'étais Poutine, je pourrais, ma foi, déjà planifier la réception des armes chinoises. C'est vrai que notre président, à chaque fois qu'on l'entend dire quelque chose, on a toujours, et Xi Jinping vraisemblablement comme nous, une irrésistible envie de faire très exactement l'inverse.
Et donc, du coup, moi, je vais faire une brève très rapide. Mediapart révèle dans un article aujourd'hui que les journalistes de BFM Télé ont interdiction d'utiliser l'expression « violence policière » qui serait trop connotée.
Bah, si c'est le concours de rapidité des brèves, moi, je peux faire un peu mieux que la précédente, mais pas aussi bien que toi. L'homme et la femme les plus riches du monde sont, pour la première fois dans l'histoire, tous les deux français. D'après le classement du magazine américain Forbes, le patron de LVMH, Bernard Arnault, et l'héritière du groupe L'Oréal, Françoise Bettencourt-Myers, sont en tête des milliardaires les plus riches de la planète. Une situation qui souligne la santé du secteur du luxe. À tous les deux, ils possèdent 270 milliards d'euros. C'est juste leur fortune personnelle. Est-ce que c'est à ce moment qu'il faut se demander comment on va financer le système des retraites, l'hôpital public, la transition écologique, tous ces trucs-là? Est-ce que vous imaginez tout ce que collectivement on pourrait faire juste en prenant le pognon de ces deux personnes et en leur laissant par exemple le montant d'un RSA à vie?
Et donc l'Assemblée nationale a adopté aujourd'hui par 389 voix, non ça doit pas être ça, j'ai dû mal recopier le numéro des voix, enfin en tout cas dans une belle alliance qui allait des Républicains au FN en passant par la Macronie, et c'est la loi anti-locataire, dite loi Casabian, qui a été adoptée malgré les condamnations de l'ONU à son encontre, qui n'auront pas été écoutées, décidément ce sera le thème de l'émission aujourd'hui. Les gens qui ne sont pas écoutés par le gouvernement Macron.
Canu Info. Du mercredi.
Et oui, les gens qui ne sont pas écoutés par le gouvernement, mais des fois quand même le gouvernement les invite à s'exprimer. Et la nouvelle du jour, c'est la nouvelle, bon une des nouvelles, mais la nouvelle sur le front des retraites. C'est que, comme prévu, les syndicats ont rencontré ce matin Elisabeth Borne, l'intersyndicale. Comme prévu, Elisabeth Borne a trouvé que la rencontre était positive et même que c'était un pas important. Et comme prévu, ça montrait juste qu'elle avait, pour le coup, c'est exactement ça, absolument rien écouté de ce qui s'était dit dans son bureau. Parce que, comme prévu encore, tous les chefs de tous les syndicats, quand je dis tous les syndicats, c'est Laurent Berger en tête quand même, depuis déjà deux mois... On commence à être un peu dépaysé. Tous les chefs de tous les syndicats ont dit en sortant que cette rencontre n'avait servi à rien. L'intersyndicale, de toute façon, avait prévenu bien longtemps à l'avance hein, qu'elle ne venait pas pour parler de quoi que ce soit d'autre que du retrait pur et simple de la réforme des retraites. Et Borne, elle, eh ben, ma foi, un peu comme elle avait dit aussi, elle voulait parler de tout et de n'importe quoi exactement, sauf de ça. En fait, on aurait déjà pu vous raconter cette rencontre hier avant qu'elle ait lieu. On ne se serait pas trompé d'une virgule puisque tout s'est passé exactement comme prévu. C'était vraiment... Il y avait un plan, il y avait un synopsis, il y avait des...
Ils sont quand même restés une heure pour se dire tout ça. ils doivent parler extrêmement lentement parce que peut-être qu'ils se sont dit qu'elle avait des difficultés de compréhension et du coup ils ont parlé comme ça. Enfin, peut-être, je vois pas d'autres explications.
Peut-être.
Que...
Alors qu'ils auraient pu passer l'heure en question à faire n'importe quoi d'autre.
Moi, je les aurais insultés pendant une heure, ça aurait été.
Non, mais même, je veux dire, ils auraient pu rester chacun chez eux à siroter un petit cacao chaud ou je ne sais quoi, puisqu'on savait à l'avance exactement tout ce qu'ils diraient en sortant. Donc, la tactique du gouvernement, on a bien compris, c'est de passer à autre chose, passer à autre chose, passer à autre chose, passer à autre chose. Et là, donc, Borne avait tenté, mais on savait déjà que ça n'allait pas marcher, hein, d'appâter les syndicats en causant conditions de travail, emploi des vieux, ou tout et n'importe quoi, comme exactement de la même manière, le même genre de tactique que pendant ce temps, Macron, qui essaye, ma foi, de créer des polémiques sur la fin de vie, en espérant que les cathos intégristes s'énervent contre je ne sais trop qui, et qu'on se mette à parler de ça, mais sauf que... personne d'autre que leur tout petit cercle n'en a quoi que ce soit à foutre dans l'immédiat, en tout cas après ça peut être des sujets intéressants mais juste pas maintenant. Tout ça pour dire, mais on va le répéter dans une seconde, demain la manif c'est 11h à Jean Massé et franchement ils sont tellement énervants, venez.
Nouveau parcours, nouvelle banque.
Radio Canu 102.2,
la plus rebelle des radios.
Et alors on va vous lire un track qu'on a trouvé sur un piquet qui nous a fait, qu'on a trouvé bien sympathique et ça s'appelle Ne fais pas grève, ne fais pas grève parce que tu risquerais de perdre un peu d'argent au lieu de bosser 2 ans de plus, ne fais pas grève parce que tu risquerais de prendre un peu de contrôle sur ta vie, ne fais pas grève parce que ça risquerait de te laisser le temps de rêver à tout ce qu'on pourrait gagner, ne fais pas grève parce que tu risquerais un jour de devoir avouer que tu as participé au mouvement historique de 2023. Ne fais pas grève parce que si tout le monde le faisait, le pays serait paralysé et le gouvernement serait obligé de lâcher. Ne fais pas grève parce que les choses risqueraient de changer. Le cadre risquerait de sauter pour s'ouvrir sur un horizon infini qui pourrait te brûler les yeux. Ne fais pas partie du grain de sable qui bloque la machine. Ne fais pas grève le jeudi 6 avril et ne viens pas à la manif qui part de Jean Massé à 11h. Ah.
Canu Info.
Il fallait bien qu'on ait un petit problème de générique. Alors, on va lire le communiqué numéro 2 des parents de Serge et qui fera l'introduction de notre partie Matin Brun. Cela fait maintenant 10 jours que Serge est dans le coma suite à la grenade qu'il a reçue à Sainte-Soline lors de la manifestation contre les bassines du 25 mars. Son pronostic vital est toujours engagé. Nous et sa compagne remercions toutes les personnes, camarades, proches et anonymes, qui ont manifesté leur soutien et leur solidarité envers lui. Nous remercions les dizaines de milliers de camarades qui se sont exprimés dans la rue, devant les préfectures et ailleurs, le jeudi 30 mars, contre l'ordre policier installé en France. Nous remercions toutes ceux et celles qui ont porté assistance aux blessés pendant les manifestations ou qui ont apporté leur témoignage concernant la répression à Sainte-Soline, en particulier par rapport à Michael et Serge. Nous remercions enfin l'équipe médicale qui est à leur côté afin de les aider à se battre pour vivre. Ce combat pour la vie, Serge le mène avec la même force que celle et ce, pardon, avec la même force que celle qu'il met à combattre un ordre social dont la seule finalité est de maintenir la main de fer de la bourgeoisie sur les exploités. Soyons solidaires de tout ce que Darmanin veut éradiquer, dissoudre, enfermer, mutiler, du mouvement des retraites au comité anti-répression, des futurs ZAD au mouvement de déblocage. Le terrorisme et la violence sont chaque jour du côté de l'État, pas de celles et ceux qui manifestent leur rejet d'un ordre destructeur. Le 4 avril 2023. Et on a donc un deuxième problème de générique. Ah, le voilà.
Canine.
Des rues de...
Ah, allez hop, c'est pas grave. Alors figurez-vous que 4 organisations avaient demandé en urgence au Conseil d'État de faire respecter la loi par les flics. De quelle loi on parle là ? Et alors d'abord, de quelles organisations ? Il s'agit de l'ACATS, l'Association des chrétiens pour l'abolition de la torture, qui est une association des droits humains. De la LDH, la Ligue des droits de l'homme. Du syndicat des avocats de France et du syndicat de la magistrature, c'est pas exactement non plus des super gauchos, ces 4 organisations demandaient de prendre des mesures pour que les flics soient réellement obligés de porter leur numéro de RIO. RIO, je sais plus ce que ça veut dire, mais c'est le truc qui, où chaque flic a une sorte de numéro individuel, un numéro qui devrait permettre de les identifier individuellement. sincère. Alors si jamais, par hasard, un flic commettait une action illégale, faisait par exemple un usage non réglementaire de la violence ou de son arme, ou ce genre de choses, ou qui certainement arrive à peu près jamais, mais si jamais ça arrivait, ça sert à pouvoir identifier ce flic un peu plus facilement. Par exemple, il est filmé en train de faire n'importe quoi, de faire un tir de LBD non réglementaire, ou en train d'attaquer complètement gratuitement un passant en marge d'une manifestation, ou n'importe quoi comme ça. Ce numéro, pour peu qu'il soit filmé ou photographié, pourrait permettre de l'identifier. Ou même si le flic est simplement enregistré de manière sonore, mais que quelqu'un qui est présent sur l'enregistrement peut lire le numéro et s'en souvenir, ça peut aussi servir à savoir de quel flic précisément il était question. Ce numéro, normalement, légalement, tous les flics en uniforme devraient le porter de manière visible au moment où ils sont en intervention. Alors, plusieurs problèmes se sont posés pour cette décision du Conseil d'État. Le premier, c'est que, ma foi, les membres du Conseil d'État, eux, n'ont jamais vu de leurs yeux un flic en intervention. Et que, quand le ministère de l'Intérieur a envoyé quelqu'un pour dire que, de toute façon, les flics portent ce numéro, effectivement, il n'y a pas de problème avec ça, les flics le portent globalement, alors que, ma foi, les quatre organisations, la CAT, la LDH, le syndicat des avocats et le syndicat de la magistrature, eux, ils disaient que l'absence de Rio était systématique et documentée. À ce moment-là, pour le Conseil d'État, c'était parole contre parole, puisqu'ils n'avaient jamais vu un flic en manif, ils pouvaient pas s'en faire une idée. Ensuite, le ministère de l'Intérieur a aussi dit que, de toute façon, quand on cherche des flics qui ont fait une connerie, on les trouve à peu près toujours. On arrive toujours à les identifier, presque toujours en tout cas. Alors, le ministère de l'Intérieur a dit ça sans s'attarder sur des cas particuliers. Des cas particuliers comme, par exemple, pour les cas extrêmement graves mais un petit peu anciens, les flics qui ont tué Zineb Redouane, c'était pendant les Gilets jaunes, c'était une vieille dame à Marseille qui s'approchait pour fermer sa fenêtre parce qu'elle avait bien compris qu'il y avait de la lacrymo dehors et qui, à ce moment-là, a pris une grenade en pleine gueule et qui est décédée le lendemain sur la table d'opération.
Et qu'on n'a pas trouvé parce que ses petits camarades n'ont pas voulu dire qui c'était.
Et bah, c'est ça, c'est qu'en fait, on a, si je me rappelle bien, quatre flics, c'est un des quatre. Un de ces quatre-là. Sauf que à la fin, chacun dit « Non, c'est pas moi, et je sais pas lequel des autres c'est. » Résultat, ma foi, il se passe rien. Juridiquement, il se passe rien. Un de ces quatre flics est un assassin en liberté et en exercice, mais pour ne pas risquer de punir un flic innocent, on n'en punit aucun. Donc voilà. Mais à part ça, le reste du temps, on les identifie. Sauf pas tout à fait toujours non plus, puisque pour un cas moins grave, mais bien plus récent, vous rappelez de cette histoire, on a parlé, je ne sais plus si on en a parlé la semaine dernière, mais en tout cas on en a entendu parler, de ces flics qui ont été enregistrés de manière sonore pendant qu'ils gardaient une poignée de jeunes qui venaient d'être arrêtés, avant que ces jeunes soient embarqués au commissariat en garde à vue. Un enregistrement qui a fait le tour des médias parce que c'est un truc vraiment scandaleux, de flics qui insultent, qui tapent, qui menacent de coups et blessures, qui menacent de viol, qui s'acharnent particulièrement sur le seul noir du groupe. Bon, alors là, bien sûr, Darmanin a dit que l'IGPN allait être saisi, que ça allait pas se passer comme ça, et ma foi, l'IGPN est saisi, mais personne n'est capable de savoir qui est ce groupe de flics. Alors personne n'est capable de savoir qui est ce groupe de flics. Il faut, dans une institution, là on parle de la police, hein, on parle de la police qui a arrêté des gens, qui les garde en attendant de les amener au commissariat, en sachant que bien sûr toutes les conversations entre les flics sont enregistrées et conservées, que tout est documenté à l'extrême, et qu'il y a des procédures, qu'il y a tous ces trucs-là. Mais là, bon, ma foi, on n'arrive quand même pas à les identifier. Bien sûr, s'ils avaient porté leur numéro de Rio apparent, n'importe lequel de ces jeunes arrêtés aurait pu se souvenir d'un de ces numéros, ou de deux de ces numéros, ou de plusieurs de ces numéros, au moins un. Mais non, bah là, quand même, non. Donc, tout ça pour dire que le ministère de l'Intérieur explique qu'en général, on arrive à identifier les flics, mais en particulier, jamais quand même. Alors, ces quatre organisations, le SAF, le SM, la LDH et la CAT, ces quatre organisations démocrates, trouvent que tout ça, c'est quand même plutôt craignos, surtout par les temps qui courent, où à peu près toute la presse française et internationale, la Défenseuse des droits, le Conseil de l'Europe, même l'Organisation des Nations Unies, conviennent qu'il y a comme un petit problème avec la brutalité des interventions des flics dans les manifs. Et ces organisations ont donc suggéré au Conseil d'État une solution. une solution pour que les flics portent réellement ce numéro. Puisque pour l'instant, le truc auquel on se heurte, c'est que comme dans la réalité, aucun des flics ne le porte, c'est un peu difficile de sanctionner 98% de la profession, surtout si on ne sait pas qui c'est, puisque justement, ils n'ont pas le numéro.
Sachant que, alors, je ne sais pas si vous avez déjà vu pour les rares fois où c'est porté, ou en tout cas sur les photos d'illustration que vous pouvez trouver sur Internet, c'est-à-dire que c'est en France, c'est-à-dire que c'est quand même tout petit. C'est-à-dire que quand vous pouvez lire le numéro, c'est tout petit et long, quand même.
C'est ça, il faut être Rayman, parce que c'est 130 251 332 25 12.
Ouais. Voilà. Ah, il faut être quand même très 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 près du flic pour pouvoir le lire. Alors qu'il y a d'autres pays, par exemple, pour être en Allemagne, en Slovénie, sur leur uniforme, c'est devant, c'est assez gros, c'est assez court. Enfin bref, voilà, donc il y a des...
Eh ben oui. Bon, ça, j'ai zappé le passage là-dessus, mais je l'avais aussi, j'y pensais aussi, oui. Parce qu'effectivement, il y a même un des représentants d'une de ces quatre organisations qui dit non, mais en fait, surtout, il faudrait que le numéro il soit en énorme, quoi. Mais là, du coup, quand même, la solution qui était au moins pour faire respecter la loi telle qu'elle existe déjà, proposée par ces organisations, c'était de sanctionner le supérieur hiérarchique si les flics portent pas de numéro d'identification. Parce que ça, par contre, on arrive quand même toujours à peu près à savoir quelle unité est à quel endroit. Unité, un supérieur. Si dans cette unité, les flics portent pas leur numéro de Rio, à ce moment-là, on sanctionne le chef. Et les flics, ma foi, le chef, lui, dans ce cas, il se démerderait pour faire appliquer, enfin, pour que les flics, ils le portent réellement. C'est vrai, a priori, que c'est plutôt malin. Le Conseil d'État a donc rendu sa décision aujourd'hui. Et en résumé, c'est fuck off, allez vous faire foutre, on n'a rien à faire.
Après, pour la défense du Conseil d'État, il y a une affaire qui est sortie avec plein de néo-nazis dans une boucle Telegram. Il y en a qui portaient leur RIO. Et ça n'a pas empêché le ministre de déclarer qu'il n'y avait pas de policiers dans le... Mais c'est peut-être pour ça d'ailleurs. Peut-être que comme il portait le RIO, les gens se sont dit non, c'est pas des policiers, c'est des acteurs.
C'est vrai.
Bon, bah il...
Ah, eh bien, on espère que les associations et organisations que tu as citées ne vont pas être la cible de Darmanin, parce que Darmanin, ah
bah d'ailleurs... Il y en a une qui l'est déjà, si oui, j'ai bien compris ce que tu vas nous dire.
Tout à fait. Était auditionné ce matin par la Commission des lois à l'Assemblée nationale et au Sénat pour défendre, en gros, le cadre d'intervention de la police et de la gendarmerie. Et il en a profité pour menacer le financement de la LDH. Bon, il en a aussi profité, bien sûr, pour justifier les actes de la police, dire 350 000 fois le mot ultra-gauche.
Conseiller à la représentation nationale de peut-être faire quelque chose pour qu'on puisse arrêter préventivement les gens sans cadre judiciaire, parce que quand même ce serait bien pratique pour que les manifestations se calment.
Ah, j'ai pas vu ça. Ouais. Ouais. Il est en forme, quoi, vous l'imaginez, il doit très sauter un peu de partout. Et il a quand même répondu à une question, bon, pas vraiment une question, hein, plutôt un propos du sénateur LR Julien Bonhomme, qui a demandé à ce que cessent les financements des associations comme la LDH ou le Défenseur des Droits. Et je cite, le Julien Bonhomme, les observateurs autoproclamés des pratiques policière issue de la Ligue des droits de l'homme et du Défenseur des droits, eh ben ça pose des questions. Le Défenseur des droits est financé par des fonds publics et a un statut indépendant.
Autoproclamé, mais bon, ouais. C'est par contre, c'est le Premier ministre qui le nomme. Donc, et... autoproclamé par le Premier ministre Elisabeth Borne.
Ouais.
Enfin, la première.
Et il s'auto-saisit comme bon. Là, il parle aussi du Défenseur des droits. Et s'auto-saisit comme bon lui semble. La Ligue des droits de l'homme, elle, est financée sur fonds publics. Il faut cesser de financer des associations qui mettent en cause gravement l'État. Ces associations n'ont rien à voir avec l'État de droit, quoi qu'elles en disent. C'est vrai que on l'attendait, lui, pour un peu juger ce qu'était l'État de droit. Et Darmanin de répondre le plus tranquillement du monde. Je le cite, qui mettent les associations qui mettent en cause gravement l'État. Je ne connais pas la subvention donnée par l'État à la LDH, mais ça mérite d'être regardé dans le cadre des actions qui ont pu être menées. Donc imagine qu'il parle des actions de la LDH, qu'il s'agit de surveiller, de jeter un œil à ce qui se passe en manifestation. Bon bah, ce qui pose un peu un tas de questions, qui va de quelle vision ce député LR et Darmanin ont de l'état de droit, si c'est faire taire toute voix discordante à la leur, si c'est qu'ils se sentent menacés par la LDH et le défenseur des droits. Bon bah là on se dit qu'ils fantasment un peu sur le pouvoir de ces deux organisations qui effectivement passent leur temps à alerter sur les abus de la police et du pouvoir sans que rien ne se passe derrière. Mais si Darmanin souhaite vérifier où vont les sous-sous de l'état, il devrait peut-être aller jeter un œil au fonds de soutien Marianne créé après l'assassinat de Samuel Paty afin de lutter contre le séparatisme, doté de 2,5 millions d'euros. Une enquête de journalistes a trouvé que la principale association bénéficiaire du fonds s'en est principalement servie pour faire 13 vidéos à 50 vues, le tout pour 350 000 euros et nourrir grassement ses dirigeants. Mais en relevant ça, peut-être que Darmanin va regarder de plus près le financement des journaux ayant relevé cette histoire.
Et du coup, pour finir, ces bonnes nouvelles de l'état de droit dans le pays, donc on vous en a parlé la semaine dernière, je pense, d'une pétition qui avait été mise en place par un monsieur, d'ailleurs un inconnu au bataillon, pour la dissolution de la BRAVEM. Donc le texte avait quand même recueilli 263 887 signatures sur le site de l'Assemblée nationale.
Alors que rares sont les pétitions sur ce site qui dépassent les 20 signatures.
Ouais, et pour être gentil, pas beaucoup avaient déplacé les... Enfin, aucune d'ailleurs avait déplacé les 100 000 signatures. Ce texte ne fera pas l'objet d'un débat. Alors, du coup, on en avait parlé la semaine dernière. Le rapporteur qui avait été choisi pour pouvoir mener le débat, si débat il y avait eu, était un député notoirement peu regardant sur l'activité de la police. Et donc, il y a fort à parier que, de toute façon, le résultat aurait été le même. Ils auraient fait semblant d'écouter pendant quelques temps l'opposition parler, et puis circuler, il n'y a rien à voir. Mais même ça, c'était un peu trop pénible. Donc, les députés Renaissance et leurs alliés LR et FN ont voté comme un seul homme pour ne même pas avoir besoin de discuter de l'opportunité de parler de ce sujet-là.
Canu Info.
Et on va se faire une petite pause musicale. On va écouter Bella Vita de La Peau et les Os.
On préfère juste rêver en grand. Canine.
Des rues de Lyon.
Excuse-moi, j'ai dit canine, mais bon, on va dire Radio Canu.
Aux pistes de lointaines contrées. Suivez la reporter des Canu Info du mercredi dans le Camion Info.
Et on va partir à Thessalonique où on va parler de lutte contre la privatisation de l'eau.
Γιώργος Αρχοντόπουλος. I'm president of the union of the workers in the water company of Thessaloniki, Greece.
Je m'appelle Yorgos Arantopoulos. Je suis le président du syndicat des travailleurs de l'entreprise de l'eau à Thessalonique, qui s'appelle EATH. Ce sont les services de l'eau pour Thessalonique et j'y travaille depuis 34 ans. On est environ 320 salariés actuellement. Thessalonique, c'est la deuxième ville la plus importante de Grèce et on distribue l'eau pour environ 1,2 million d'habitants. À Athènes et à Thessalonique, l'eau est gérée par l'État et pour le reste de la Grèce, ce sont les municipalités qui gèrent.
The water company belongs to the state. All around Greece, the rest of Greece is a municipality-owned water companies. There's a struggle in Thessaloniki started about 2007 against water privatization. There is a story about the memorandums. That of course, Troika pushed Greece for privatizations.
Il y a une lutte à Thessalonique depuis 2007 contre la privatisation de l'eau. Ça a commencé avec le mémorandum de l'Europe, quand la Troïka a constitué de la Commission européenne, de la Banque centrale européenne et du FMI, a poussé la Grèce aux privatisations des services publics après la crise. Tout a été privatisé sauf l'eau. On a mené des luttes importantes et victorieuses contre ça, notamment à Thessalonique. La dernière tentative de privatisation directe, c'était en 2014, quand 51% de l'entreprise était à vendre. Il y avait une entreprise israélienne qui était intéressée, et aussi Suez, l'entreprise française. On a organisé une lutte en créant la structure Sauver l'eau. On a organisé un référendum, et en même temps, un groupe d'avocats d'Athènes saisissait la Cour suprême grecque pour montrer l'illégalité de la privatisation de la compagnie de l'eau athénienne. Et ils ont eu gain de cause. L'État a annoncé alors qu'à cause de la contestation à Thessalonique et de la décision de la Cour suprême, le processus de privatisation était suspendu. Ça a été une grande victoire.
The state came and announced officially that because of the social reactions in Thessaloniki and because of the decision of the Supreme Court, the privatization process is frozen.
En 2017, le gouvernement passait une loi qui faisait passer l'eau de bien commun à une marchandise ordinaire. Avec le syndicat, on a décidé de saisir une nouvelle fois la Cour suprême contre cette loi et on a eu gain de cause en décembre 2021. Et la décision de la Cour suprême a normalement valeur d'injonction sur l'État. Mais le gouvernement, au lieu d'appliquer cette décision, l'a annulée en juillet dernier en faisant passer une loi qui stipule que toutes les décisions de la Cour suprême qui affectent le superfonds ne sont pas valables. Le superfonds, c'est un outil financier pour la privatisation dont font justement partie les entreprises. Il y a un comité chargé de contrôler si l'État applique les décisions de la Cour suprême. On a demandé à ce comité de faire son travail, et il y a deux semaines, le comité annonçait que l'État devait appliquer les décisions de la Cour suprême avant décembre 2023. Donc avant décembre 2023, le gouvernement doit faire sortir les entreprises de l'eau d'Athènes et de Thessalonique de ce superfonds de privatisation, ce qui est une autre victoire pour nous. Et maintenant, la lutte continue contre la privatisation indirecte, qui a une porte d'entrée avec une loi sur la régularisation de l'eau qui est passée il y a deux ans et qui permet à l'État de se défaire de ses obligations envers ce service en déléguant la gestion à des structures de régulation extérieure.
And give this right, this obligation to the independent regulatory.
En mai prochain, on va avoir des élections. Donc on veut mettre cette question au cœur des débats et demander aux partis ce qu'ils feront de cette loi s'ils arrivent au pouvoir. Vont-ils ou non l'annuler?
Are you going to cancel this law or not? Για να μην γίνει το νερό σαν το ρεύμα ακριβό.
résister pour que l'eau ne devienne pas aussi chère que l'électricité. Depuis la privatisation, notre électricité, c'est la plus chère d'Europe.
In other countries where companies privatized, maybe the things were not so bad for the workers or the companies. And to be honest with you, we're not afraid about for our jobs. Because if the company privatized, the private sector really needs the knowledge of the workers of the company.
On a l'exemple d'autres pays où quand un secteur est privatisé, peut-être que la situation n'est pas si mauvaise pour les salariés. Et pour être honnête, nous ne sommes pas très inquiets par rapport aux emplois ou aux conditions de travail, parce que si la privatisation aboutissait, le besoin de nos compétences serait le même. Quand on a commencé la lutte en 2007, c'est parce qu'on a reçu une première visite de Suez à Thessalonique pour voir s'ils voulaient investir ici. Et des étudiants, des groupes d'anarchistes ou des groupes d'extrême gauche sont venus rencontrer notre syndicat pour nous demander ce que l'on savait et ce que l'on pensait de la privatisation. On a aussi beaucoup appris d'eux sur ce qu'il se passait ailleurs, la privatisation de l'eau à Paris ou à Berlin. Et la suite a été assez naturelle de résister à ça. En tant que citoyen, en tant qu'usager de l'eau, et pas forcément parce qu'on est syndiqué ou parce que c'est l'endroit où on travaille. C'est important pour nous d'agir avant que la privatisation ne soit déjà effective et avant qu'il ne soit trop tard pour réagir. 90% des salariés de l'entreprise sont syndiqués et on est tous contre la privatisation. Jusque-là, le syndicat luttait pour des meilleures conditions de travail, pour les salaires, bref, des luttes syndicales classiques. En 2007, ces groupes anarchistes ou communistes dont j'ai parlé nous ont aidés à être ouverts sur la société de Thessalonique. On a commencé la lutte et ces gens nous ont vraiment pris par la main, nous ont mis dans la rue et ont commencé à mettre des affiches sur les murs. C'était un choc pour nous et je me disais que pendant que mes collègues dormaient, ces jeunes étudiants se levaient à 3h ou 4h du matin pour coller nos affiches.
Yes, all of them are against the privatization. Until that year, the basic thinking of the union was basically better working conditions, better money for the workers, and also the classic for the unions. In 2007, I think these people, these groups of anarchists and communists, and came near to us as students, they helped us to be open to the society of Thessaloniki. And we started struggling, and these people really
et ça a été le début du mouvement Sauvé l'eau, où même si l'appel venait de notre syndicat, on était en lien avec ces groupes d'artistes, d'intellectuels ou d'activistes, des gens qu'on ne connaissait pas du tout avant. Parce que ce que l'on disait et ce que l'on continue à dire, c'est que 300 salariés ne peuvent pas empêcher la privatisation, mais ils peuvent être l'étincelle qui entraîne toute la ville à résister contre cette privatisation. Et c'est ce que l'on a fait avec cet immense concert dimanche dernier, où environ 3000 personnes sont venues, et ça a eu un impact politique. Maintenant, ils parlent de la privatisation de l'eau partout en Grèce. Le gouvernement a même fait une annonce
officielle. To resist and win the privatization. And that's what we did with the concert now. We organized a big concert, about 30,000 people were there, and we make a political impact. In 2 days now they're speaking about the water privatization all around Greece. And the government officially make announcements and all of like this, yes. There were many struggles in privatization before the Superfund and before Troika, because the people knew what was coming.
Il y a eu beaucoup de luttes contre les privatisations avant le Superfund, avant le mémorandum de l'Europe. Mais maintenant, tout est privatisé, les aéroports, les trains, tout. Et d'ailleurs, on voit ce que ça donne avec cet accident de train, ou plutôt ce meurtre, à Tempe. Et maintenant, ils sont en train de privatiser l'espace public, les plages, les parcs, etc. Après 2015, et après le troisième mémorandum de l'Europe, Syriza, qui s'est pourtant fait élire par l'extrême gauche, véhiculait l'idée qu'il n'y avait pas d'alternative, que l'on ne pouvait rien faire et qu'on ne pouvait pas résister, et que c'était comme ça. Mais on peut aussi être optimiste et considérer que cette lutte pour l'eau n'est qu'un début. Pour tout rendre à nouveau public, comme ce qu'il s'est passé en Bolivie à Cochabamba, où l'eau était le dernier bien public, les gens ont lutté pour ça, le gouvernement a été remplacé par Evo Morales et tout est redevenu public.
Radio Canu 102.2,
la plus rebelle des radios.
Canu Info.
Non, mais avant de faire mon info, je vais quand même faire une petite annonce. Si jamais on voulait un générique mieux pour le camion info, il faut se grouiller maintenant parce que ça risque d'être que jusqu'au mois de juin, le camion info du mercredi. Mais par ailleurs, si on veut des virgules mieux pour le camion info, ça, on a encore le temps. Hein. Mais en même temps, ça pourrait être pas mal.
Ah. C'était quoi cette espèce de rébellion?
C'était un message privé en même temps, en direct à l'antenne. Ah, et maintenant, à cause du Burkina Faso, ouais, je sais, je ne me renouvelle pas beaucoup. Mais par contre, le Burkina, lui, se renouvelle.
Une histoire nucléaire.
Pas pour le meilleur. Non, absolument pas. Ah, là, en l'occurrence,
non, c'est croisé, t'as pas croisé tes passions.
Non, pour l'instant, j'ai pas encore de quoi. Non mais oui, c'est ça, on va revenir un peu au Burkina, parce que si on avait pu, et j'ai pu moi-même à cette antenne me demander pendant quelques temps ce qui réellement allait sortir du dernier coup d'état, donc deuxième en moins d'un an, le coup d'état qui a porté au pouvoir le capitaine Ibrahim Traoré, disons que maintenant on voit de mieux en mieux se dessiner une sorte de tendance générale, et que cette tendance générale nous renforce dans le fait qu'on est plutôt content de ne pas habiter dans ce pays. L'actualité du moment, c'est autour de la liberté de la presse, mais ça fait des petits détours par des trucs encore plus moches que les saloperies sur la liberté de la presse. Alors la semaine dernière, les correspondantes locales de Libé et du Monde ont été expulsées du pays. Quelques temps avant, c'était RFI, une radio francophone qui est énormément écoutée en Afrique, et France 24, dont la diffusion avait été interrompue. France 24, à ce moment-là, avait été accusé d'avoir interviewé un des chefs de ACMI et de donner comme ça une légitimité aux djihadistes. Là, c'est donc plutôt l'expulsion des journalistes de Libé et du Monde qui n'est pas... cette expulsion des journalistes de Libé et du Monde n'est pas officiellement motivée. Et en plus, elle a même pas été... c'est même pas une décision écrite, c'est des gens qui se sont pointés chez elle, qui ont sonné et qui l'ont redit. C'est le gouvernement qui m'envoie pour vous dire qu'il faut que vous ayez dégagé dans les 24 heures. Rien d'écrit. Communication orale, ils ont précisé. Mais cette expulsion fait quand même suite à la publication d'une enquête de Libé, une enquête plutôt du genre embarrassante pour l'armée du Burkina. Alors voilà l'histoire. Le 14 février, Libé reçoit une vidéo par Internet. La vidéo est courte, elle fait moins de 2 minutes, mais on comprend assez vite qu'il s'agit d'exécutions et que les personnes exécutées sont des enfants et des préadolescents. La source est anonyme et la seule indication, c'est que la vidéo a été tournée au Burkina. On y voit quand même au moins une personne en uniforme de l'armée. Bon, là, deux journalistes de Libé se mettent au boulot. Et là, alors vous voyez, quand on regarde des séries où il y a des journalistes, où il y a des gens qui décortiquent des vidéos de manière un peu précise, on voit à peu près le principe du boulot qu'ils ont fait, image par image, détail par détail. Les journalistes finissent par arriver à une date, celle du 13 février, la veille donc du jour où la vidéo est arrivée au journal. C'est déjà une indication et qui est à mettre en lien avec une tentative des groupes paramilitaires du Burkina. Alors on rappelle qu'au Burkina, il y a les volontaires pour la défense de la patrie, qui sont des sortes de civils embauchés par le gouvernement pour aller buter du djihadiste, et avec très peu de formation, on leur file des armes et allez-y. Et donc ces VDP, ce jour-là, ont essayé d'attaquer des djihadistes. Ils ont complètement foiré, ils se sont ramassés. À ce moment-là, c'est à peu près la seule info qui est arrivée en France. Toujours est-il qu'avec le boulot image par image et détail par détail, sur la vidéo, il y a des bâtiments en L, la terre est rouge, blabla, la couleur de la végétation, ceci, la position des pick-up, cela. Les journalistes de Libé identifient avec certitude le camp militaire de Waïgouya, qui est une ville du Burkina. Ce qui fait qu'on ne peut plus trop envisager l'hypothèse d'une fausse vidéo qui aurait été tournée par des djihadistes pour décrédibiliser l'armée et le pouvoir du Burkina. C'est réellement des militaires, des vrais militaires de la vraie armée qui sont sur la vidéo. Alors la conclusion de l'enquête, c'est que du coup, les paramilitaires, les VDP, frustrés d'avoir loupé leur attaque, sont allés attaquer un village Peul sur le chemin du retour, puisque les Peul, qui est donc une ethnie, comme on dit, du Burkina, sont accusés de fournir le gros des troupes de Hakmi. Et donc il y a un peu régulièrement, en particulier des populations civiles qui, quand ils ont eu des problèmes avec les djihadistes, vont dézinguer du Peul.
Accessoirement, c'est pas la population la mieux dotée économiquement du Burkina. On peut le dire.
Bien sûr, généralement ça a des liens.
Ça a des liens
ce genre de lien existe. Ouais. Et donc là, c'est VDP qui ont attaqué un village Peul et donc les enfants et les préadolescents abattus qu'on voit sur la vidéo seraient a priori des enfants Peul abattus, alors soit directement par l'armée du Burkina, soit en tout cas avec la complicité de l'armée de manière un peu évidente puisque les militaires sont là et d'une manière assistent ou si ce n'est et font eux-mêmes les exécutions. C'est moche, c'est plutôt moche. Le gouvernement burkinabé réagit à ce moment-là un peu comme n'importe quel Gérard Darmanin dans ce genre de cas. C'est tout des mensonges, circuler, il n'y a rien à voir, une manipulation, blablabla.
Ils n'ont pas leur RIO, c'est donc pas des vrais policiers.
C'est ça. En tout cas, quelques jours plus tard, ce gouvernement burkinabé vire donc la correspondante de Libé et celle du Monde pour faire bonne mesure. Alors, suite à cette histoire, j'ai pu entendre sur une grande radio française, mais je ne me rappelle plus vraiment de l'émission ni de qui parlait, que du coup, avec cette expulsion, avec l'arrêt de France 24 et de RFI, puis l'expulsion des journalistes de Libé et du Monde, figurez-vous que la personne qui parlait à ce moment-là disait « Il n'y a donc plus de presse indépendante au Burkina ». Alors, c'est ça, je me souviens pas, je suis désolé de qui était le connard qui disait ça, mais j'ai quand même un peu cru m'étouffer en l'entendant. Parce que ce que voulait dire sans doute ce sinistre bonhomme, c'est qu'il n'y avait plus de presse française au Burkina. Et bon, de fait, c'est vrai que c'est un problème. Mais pour autant, dire qu'il n'y a plus de presse indépendante au Burkina, c'est quand même très mal connaître ce pays. Et c'est très insultant pour des journalistes autrement plus courageux que ce qu'on trouve en France. Le Burkina, c'est un pays que beaucoup de ses dirigeants ont essayé de mener à la baguette, mais ils n'y sont jamais complètement parvenus. Alors, plus ou moins sont les périodes, mais quand même jamais complètement. Depuis l'indépendance et jusqu'à la révolution de 2014, chacun des présidents du Burkina, chacun des présidents, ça veut dire même Thomas Sankara, que par ailleurs on aime plutôt bien globalement par chez nous, chacun de ces présidents a tenté d'imposer le parti unique. Il n'y en a jamais un qui y est arrivé. Sous la très longue présidence de Blaise Compaoré, la crapule, la presse a pris un essor phénoménal et une liberté de ton que, à ce moment-là, on pouvait carrément envier en France il y a une dizaine d'années. Si on se rappelle le paysage médiatique en France il y a une dizaine d'années, par rapport à maintenant, ça fait quand même une petite différence, c'est que de toute la presse légitime, toute la presse qui avait des titres qui se vendaient un peu et qui était un petit peu citée avec respect, qu'on croyait ce qu'elle disait, c'était quand même tellement du journalisme respectueux, du pognon, des gouvernements, de tout ça. C'est un peu moins vrai aujourd'hui, mais à l'époque, c'était terrible, quoi. À l'époque où, donc, pendant ce temps, au Burkina, c'était pas du tout la même chose. Les journalistes étaient sérieux, ils étaient intègres, les enquêtes étaient serrées et elles étaient risquées. Ce journalisme burkinabé a eu ses martyrs, en particulier Norbert Zongo, flingué et cramé dans sa voiture en 1998, à un moment où il était en train de mener une enquête sur un meurtre qui impliquait le frère du président. C'est pas le seul, mais lui c'est vraiment devenu une sorte d'icône bien au-delà du Burkina, hein, donc globalement en Afrique de l'Ouest et globalement en Afrique francophone. Depuis 2014, donc le moment où ce Blaise Compaoré a été viré, et pour la première fois il y a eu un président élu, on a pu avoir l'impression que les journalistes pouvaient faire leur boulot un peu plus tranquillement. Et même après le premier coup d'état militaire, après le Burkinabé, elle a pas trop hésité à critiquer la junte au pouvoir, et ma foi, ça passait. Il y a eu ce deuxième coup d'état, et là, l'ambiance a changé. Alors elle n'a pas changé d'un coup, elle a changé petit à petit. Le nouveau président a commencé par demander, d'abord gentiment, puis un peu plus fermement, à la presse de l'aider dans sa lutte contre les djihadistes, plutôt que de lui mettre des bâtons dans les roues. Et puis il a commencé à faire des procès de merde pour des conneries. Et aujourd'hui, les grands journaux du Burkina, comme l'Observateur Paalga, s'inquiètent et craignent pour la sécurité de leurs journalistes. Le journal L'Événement, qui vient de publier une enquête sur la corruption d'un des leaders de la junte, dit clairement qu'eux, ils s'attendent au pire. Toujours pour la sécurité de leurs journalistes. Alors voilà, c'est vrai que quand, au début de la guerre en Ukraine, là je reviens en France, Macron avait interdit la diffusion de Russia Today et de Spoutnik, moi déjà, on en avait parlé à ce Canu Info, on trouvait déjà que c'était craignos. Alors c'est pas qu'on a été grand fan de Russia Today et de Spoutnik, mais c'est quand même toujours un problème qu'un gouvernement décide de qui a le droit ou pas le droit de parler sur son territoire. Bon bah là, de fait, au Burkina, quoi qu'on puisse penser de la présence de la France et de la voix de la France dans une ex-colonie, de fait, c'est aussi un problème. Et c'est d'autant plus un problème qu'en réalité, la dose de mensonges racontée par Russia Today et par Spoutnik n'a rien à voir avec ce que pouvaient raconter RFI, France 24, Libé ou Le Monde, qui, ma foi, sont malgré tout des journaux sérieux.
Ah, après, quand même un petit tacle pour France 24. Il parlait d'indépendance et de France 24 qui est censée être la voix du gouvernement français en Afrique. Enfin, en Afrique et dans le monde, c'est quand même un peu cocasse, on va dire. Voilà. Bah parce que c'est un média d'État payé et créé pour le raisonnement. C'était censé être le CNN à la française. Ils font du travail qui est le travail qu'ils font et qui n'est pas spécialement plus propagandiste qu'un autre journal. Mais en termes d'indépendance, on a vu mieux qu'un média d'État.
C'est clair. Après, mine de rien, il finit par y avoir une sorte de petite différence entre un média d'État et un média du gouvernement.
Non, mais bien sûr.
Et de fait, France 24 ou RFI, mais de la même manière que Radio France sont des médias d'État, ça ne veut pas dire que c'est les porte-voix du gouvernement. Alors, bon, par exemple, France Inter, le matin, oui.
Non, mais c'était pas pour dire que c'était pareil, c'était pour dire que c'était juste cocasse, c'est vrai, d'avoir parlé d'aucune presse
de médias indépendants
quand on parle absolument de deux médias qui sont les représentants de l'État à l'international, de l'État français. Et en effet, comme France Info peut être un média tout à fait correct tout en étant un représentant de l'État à l'international.
Voilà, bon, bah, tout ça pour arriver à ma conclusion qui était c'est quand même vraiment craignos que ces médias aient été virés. Mais la presse indépendante au Burkina est encore pour l'instant vivante et active. Par contre, c'est clair qu'elle est gravement en danger.
Darmanin, tiens, encore lui, a annoncé il y a quelques semaines une opération d'ampleur prévue pour fin avril à Mayotte. L'objectif, raser les habitations jugées illégales et expulser les sans-papiers. L'opération se nomme Wambushu, désolé pour la prononciation, ce qui veut dire reprise en maoré, et s'étalera sur 2 mois. De nombreux acteurs et actrices de la société civile s'inquiètent d'une telle opération. Récemment, ce sont les personnels de santé hospitaliers et libéraux qui se sont manifestés. Ils sont près de 200 signataires d'une lettre ouverte aux autorités pour faire part de leurs plus vives inquiétudes. Donc sur le plan sanitaire, parce qu'il parle de ce point de vue-là, l'exemple de grandes interventions similaires à Mayotte avait eu des conséquences dramatiques. Je les cite, situation à risque infectieux épidémique dans les zones d'hébergement d'urgence, limitation à l'accès aux soins, rupture de prise en charge avec décompensation des pathologies chroniques, abandon des patients avec handicap majeur et décès à domicile, majoration des coûts pour le service public, effet délétère sur l'attractivité des personnels soignants dans le département. Bon, alors les deux derniers sont un peu pour essayer d'avoir une oreille attentive auprès des autorités. On imagine que ça restera non. Comme un cri de désespoir, les professionnels demandent à Darmanin, au préfet de Mayotte et à l'ARS de pouvoir, je cite, prendre connaissance des procédures de mise à l'abri des personnes vulnérables nécessitant un suivi médical rapproché et de pouvoir accéder à leurs patients et patientes pendant les 2 mois que doit durer l'opération. C'est dire un peu les inquiétudes, c'est-à-dire que les gens non seulement flippent du chaos que risque d'engendrer ces 2 mois d'intervention où on a appris aujourd'hui qu'il y a la fameuse CRS 8, je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette compagnie de CRS qui est là pour les violences urbaines.
C'est comme les autres CRS, mais ils prennent que les jeunes et du coup il n'y a pas de petits, pas de gros, pas.
S'ils font de la muscu, voilà, tout le temps. Bref, c'est un peu les super CRS qui interviennent en cité, en gros. Et ben là, ils vont être déployés à Mayotte, a priori, pendant cette opération. Je dis a priori parce qu'en fait, tout le monde essaye d'interroger un peu les médias, enfin, le préfet Darmanin sur cette opération qui a été effectivement annoncée, qui a été validée par Macron et tout. Mais là, tout le monde dit ah oui, non, mais c'est pas nous, on vous en dira pas plus, on sait pas si elle aura lieu ou pas. Enfin, bref, c'est un peu bizarre. Leur expérience par rapport à ce qui s'est déjà passé, je les recite encore, on l'a vu ces années passées, chaque crise sociale, chaque opération de police de grande ampleur a des répercussions visibles sur la santé. Des gens couverts par la sécurité sociale ne sortent plus pour se faire soigner parce qu'ils ont peur des violences qui ont lieu face aux forces de l'ordre, précise-t-il. Des infirmiers ne peuvent plus se rendre au domicile en raison des barrages routiers. Des parents sans papiers d'enfants hospitalisés peuvent se faire pincer devant l'hôpital, laissant l'enfant seul à Mayotte. À Mayotte, sur le plan sanitaire, la situation est tendue. D'après le chiffre de l'ARS, à structure de population équivalente, 21% des habitants et habitantes de Mayotte se déclarent en mauvaise, voire très mauvaise santé, contre 7%. En métropole, le taux de renoncement aux soins y est supérieur de 9 points, 38% contre 29%. Donc déjà, ce chiffre est majoré de 9 points, mais en plus, du coup, pour des cas plus graves. Les habitants meurent 3,3 fois plus du diabète. Les sans-papiers renoncent 3 fois plus aux soins que dans l'Hexagone, 22% contre 8%. Donc ça, c'est quand il n'y a pas d'opération policière pendant 2 mois, c'est-à-dire quand c'est l'opération policière constante, parce qu'il faut quand même se rendre compte qu'à Mayotte, le préfet, c'est un préfet à l'immigration. Enfin, tout est un peu cadré autour de cette immigration illégale. Donc voilà, la Commission nationale consultative des droits de l'homme, qui s'appelle CNCDH, avait saisi Darmanin au sujet des risques d'une telle opération et demander son annulation. Le ministre n'a pas répondu, mais une source officieuse dit que la CNCDH risque de voir ses comptes scrutés par le ministère de l'Intérieur, comme ils ont l'air de soulever les problèmes de ce dit ministre. C'était une blague. Juste que vous n'avez pas l'air d'avoir compris que c'était une blague.
Si, c'était pas. Blague. Puisqu'on est aux blagues.
Je voulais pas répondre des fake news.
Les camarades rennais ou nantais, chez qui la CRS 8 est en ce moment, si vous faites un petit effort, vous pourrez peut-être les empêcher d'aller faire chier le monde à Mayotte. Mais il faut tenir un peu, quoi. Faut continuer à foutre le bordel pendant quelques temps.
Ah, et on peut finir ce qui est une info par une bonne nouvelle qu'on a oublié de le faire en bref au début. Mais Silvio Berlusconi est hospitalisé en soins intensifs en raison d'un problème cardiaque. L'ex-dirigeant italien a été admis dans un hôpital à Milan et c'est sa deuxième hospitalisation en quelques jours à peine. C'est pas bon signe de là à espérer le même sort pour quelques-uns de nos dirigeants.
Le pauvre, peut-être il va clamser.
Peut-être, on sait pas. Mais on se réjouit pas des morts sur Radio Canu. C'est moche.
On
c'est
juste
moche.
Dit. Oh,
non, on prend une voix triste un petit peu.
On est triste. Et du coup, pour pouvoir être tristes tous ensemble, demain à 11h, il y a manifestation à partir de la place Jean Massé.
Ne vous trompez pas cette fois-ci.
Ne vous trompez pas, nouvelle banque, nouveau parcours. Et voilà, on vous souhaite une bonne fin de journée avec Idées Noires. Je crois que je les ai vus passer. Il me semble que oui, ça doit être ça.
Et
peut-être un petit peu de bande continue en attendant.
Tout à fait. Merci de nous avoir écoutés.
Bonne soirée.
Retrouvez le Canu Info tous les jours de la semaine de 19h à 20h sur le 102.2 et en réécoute et en podcast sur le site de la radio www.radiocanu.org.